Vivre FM
Podcast. Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Recherche et partage, une émission proposée en partenariat avec la FIRA, Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap. Aujourd'hui, aux côtés de Dominique Argou, qui est chercheur et coordonne des études dans le domaine de l'habitat, des territoires et des politiques publiques, nous nous intéresserons aux solutions inclusives dans le domaine de l'habitat pour les personnes handicapées. Nous verrons comment identifier et promouvoir les formes d'habitat qui favorisent l'inclusion sociale des personnes qui ont des besoins spécifiques. Le lieu de vie, c'est une base qui permet l'autonomie et l'exercice de ses droits et de ses libertés fondamentales. Et tout au long de cette émission, nous serons accompagnés par quelqu'un qui connaît aussi très bien les besoins et les problématiques des personnes handicapées, puisqu'Adrien Jousserando est tétraplégique depuis un accident survenu il y a quelques années, privé de l'usage de ses jambes et de ses bras. Il n'est pas par contre privé de l'usage de la parole et il parle très bien, alors nous sommes ravis de l'avoir à nos côtés. Et en dernière partie d'émission, nous ferons le point avec lui sur l'accès aux soins des personnes handicapées. Recherche et partage en partenariat avec la FIRA, c'est tout de suite sur Vivre FM. Dans le cadre du financement de projets de recherche appliqués, la FIRA a décidé en 2012 de soutenir un projet de recherche intitulé Offre de services en matière d'habitat pour favoriser l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Pour nous expliquer de quoi il en retourne, c'est Dominique Argou, chercheur à l'Université de Créteil, directeur de l'unité de formation et de recherche spécialisée en sciences de l'éducation et sciences sociales. C'est un peu long, mais vous avez compris ce qu'il en était. Il est avec nous donc en studio et nous sommes accompagnés d'Adrien Jousserando qui n'hésitera pas, j'espère, à interagir avec nous et à nous faire part de son expérience. Messieurs, bonjour. Merci bonjour. D'être là ce matin avec nous. Bonjour. L'habitat, bonjour Adrien, l'habitat pour une société inclusive. Alors on va partir du commencement avec vous Dominique. D'où est venu le besoin, l'envie d'entamer un sujet de recherche sur cet habitat inclusif, cet accès à un logement à égalité pour tous, on va dire?
Alors le point de départ, c'est tout simplement l'appel à recherche effectivement de la FIRA, auquel l'APF, l'Association des paralysés de France, a répondu et l'a cherché un petit peu à s'entourer de gens qui avaient déjà un petit peu travaillé sur la question, et ça a été mon cas. Mais je n'étais pas tout seul, puisqu'il y avait également un think tank
belge pour la solidarité.
Pour la solidarité, qui a également apporté la connaissance en tout cas de ce qui se fait un peu en Europe sur ces mêmes questions.
Et alors donc l'APF qu'on a cité, et puis à côté de l'université de Paris-Est-Créteil, donc il y a vous, et puis il y avait Christophe Jeunet, je crois, sur cette étude
qu'on peut citer aussi. Tout à fait, qui travaille en lien avec moi, effectivement.
Donc, comme la plupart des projets soutenus par la FIRA, comme tous d'ailleurs, c'est un maillage entre des chercheurs, des associatifs, des laboratoires d'idées dans ce cas précis, puisqu'il y a un think tank. Et donc, toute l'idée de ce projet repose sur, justement, une approche participative de tous ces acteurs. Alors, en deux mots, puisqu'on est à 2 ans maintenant pratiquement du début de la recherche, puisque le projet a été soutenu en 2012, comment s'est passé ce maillage qui a été un peu le rôle de chacun? Et pourquoi justement c'était important d'avoir à la fois les chercheurs et l'association?
Tout à fait, c'est une des particularités, puisque souvent nous sommes habitués en tant que chercheurs à ce qu'on nous confie une étude et on produit un rapport à la fin. La philosophie n'était pas du tout celle-ci, hein, puisqu'il y avait en gros un travail d'une part avec un comité de pilotage qui permettait de se voir régulièrement. Le comité de pilotage, quand on dit comité de pilotage, c'était justement de mettre autour de la table des gens, bien sûr, de l'APF, des personnes en situation de handicap, des chercheurs. Enfin, il y avait une volonté de croiser un petit peu les regards, de manière à avancer, à construire collectivement la recherche. Donc, c'était pas le chercheur qui était seul dans son laboratoire, selon l'image que l'on a parfois. Et puis, deuxième élément caractéristique aussi de la démarche qui a été choisie pour cet appel à recherche, c'était de travailler aussi sur des sites, ce qu'on appelait un travail de monographie, c'est-à-dire partir d'expériences, non pas exemplaires, mais de travailler avec quelques sites qui étaient notamment Picardie, où on a essayé de voir les questions que se posaient les gens, en fait, localement, sur des projets ou des esquisses de projets d'habitat, de nouvelles formes d'habitat.
Parce que vous m'expliquiez en antenne il y a un instant que justement tout l'intérêt de ce projet, c'était pas finalement d'apporter des solutions toutes faites, mais de poser les questions, d'inviter les gens, et on va voir lesquels, le public est assez large, le public auprès de qui on destine cette étude, études, c'est de se poser des questions. Quand vous partez d'un site, vous le disiez en Picardie, comment ça se passe? Vous appelez ces personnes, et les personnes handicapées, les membres de l'APF par exemple, et vous leur dites, voilà, à quoi il faut penser quand on construit un habitat pour une personne handicapée?
Non, justement, c'est pas d'être donneur de leçons pendant la phase de la recherche, c'est plutôt d'aller écouter tout simplement les questionnements, les interrogations, les doutes également, hein, quand des promoteurs, mais quand je dis promoteurs, c'est au sens large, c'est des gens qui se mettent autour d'une table pour réfléchir à de nouvelles manières de peut-être d'habiter, hein, de faire face justement à des situations de handicap. C'est d'écouter un petit peu tout ce qui ressort, et plutôt que de faire une sorte de guide avec des recettes toutes faites, c'est plutôt de faire un guide qui va pointer les questions à se poser si l'on veut réellement promouvoir un habitat dans une société inclusive. Parce qu'il n'y a pas une seule manière de faire, c'est la difficulté de l'exercice, à mon avis l'intérêt, c'est de se dire que sur ce thème, il n'y a pas une nouvelle forme d'habitat qui serait à privilégier, unique. Il y a des milliers de façons d'envisager les choses, et donc il faut se poser les bonnes questions.
Mais alors concrètement, ces questions, c'est quoi ce type de questions qu'on doit se poser si on veut faire de l'habitat inclusif?
Alors, tout d'abord, évidemment, les questions centrales, c'est se poser la question de l'implantation de ce lieu, puisqu'il va de soi que selon l'endroit où l'on va imaginer l'habitat inclusif, ça sera plus ou moins bien intégré à la vie de la cité, ou au contraire, ça le sera moins. Donc, c'est toutes les questions de l'implantation, tout simplement. Est-ce qu'on est implanté au cœur de la cité, ou est-ce qu'on est à l'extérieur? C'est se poser la question de, est-ce que, tout simplement, le lieu est accessible ou n'est pas accessible. Et puis, plus on élargit, c'est aussi se poser la question des aides. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur un endroit où on peut avoir recours à des aides qui vont permettre l'accompagnement sur place? Est-ce que c'est un lieu qui va nous permettre de sortir également du lieu? Donc, toute une série de questions qu'on a essayé de lister en essayant d'écouter un petit peu ce que les gens nous disaient.
Adrien.
Alors, Dominique, pardonnez-moi, je suis un des principaux intéressés, puisque je vis sur un fauteuil roulant, assez volumineux d'ailleurs, qui ne passe parfois pas dans des lieux pourtant réputés accessibles, et je n'ai pas, par contre, l'honneur de connaître vraiment le fond de votre projet, sur lequel vous avez travaillé, et je me demandais, en fait, ces différents habitats et ces différentes questions que vous vous posez, est-ce qu'elles concernent uniquement des logements neufs, finalement, de la promotion immobilière, et chercher des nouveaux locaux, un nouveau système d'accompagnement, un nouveau système d'accessibilité, une sorte de mixité sociale, je ne sais pas, des personnes valides en même temps que des personnes handicapées, soit motrices, mentales ou autres. Cela concerne vraiment des nouveaux logements ou est-ce que cela concerne des modifications qu'on pourrait apporter à des habitats déjà existants?
Alors, par définition, la recherche en question, elle visait l'ensemble des situations. C'est-à-dire aussi bien les questions à se poser pour améliorer un existant que de projets qui partent de rien, ex nihilo. Alors, il va de soi que, puisqu'on a cherché l'excellence, on a cherché la situation idéale, c'est toujours plus facile d'imaginer quelque chose où il y a tout à créer, c'est-à-dire qui est neuf. Alors que quand on part d'un existant, évidemment, on ne peut pas tout refaire de A à Z, tout casser en quelque sorte. Mais la grille de questionnement se veut en tout cas universelle, hein, avec cet objectif finalement qui devrait être celui de la société tout entière, de promouvoir un habitat finalement, quelles que soient les situations de handicap et quel que soit l'endroit où la personne habite, réside.
D'accord, parce que sans vouloir forcément chercher l'excellence, je me demandais si vous vous étiez penché sur le minimum vital ou le minimum acceptable pour rendre un logement accessible dans le sens le plus large du terme à une personne handicapée. Je vais faire un tout petit peu de nombrilisme et parler de mon cas, je n'y reviendrai pas après, mais après un accident donc qui m'a rompu la moelle épinière et qui m'a rendu tétraplégique il y a 5 ans, et ensuite après 6 mois de rééducation dans un hôpital, je suis resté 2 ans dans cet hôpital, faute de pouvoir trouver un logement, faute de pouvoir tout simplement habiter quelque part. J'ai perdu 2 ans de ma vie dans un hôpital puisque j'avais terminé ma rééducation. Si on calcule, ça a dû coûter des centaines de milliers d'euros aux contribuables le français, tout le monde y a perdu, j'ai bloqué un lit d'hôpital pendant 2 ans, faute de trouver un logement minimum voilà, vivable pour moi, c'est tout simplement accessible, sans forcément rechercher l'excellence. Donc j'aurais voulu avoir des détails sur votre projet, si vous aviez finalement recherché également le minimum acceptable pour un handicapé, peut-être suivant son handicap, je ne sais pas.
Mmh. Oui, parce qu'ici dans la recherche, juste, mais la recherche en plus concernait tous les types de handicap, parce que c'était pas non plus un petit peu aussi, j'allais dire, optimiste au début de vouloir se poser des questions qui concernent tous les handicaps.
Alors, c'est pas une question d'optimisme. Enfin, je crois que réellement, si on veut avancer sur le dossier, ça suppose de convaincre. Et enfin, je crois que finalement, c'est là où je vais faire le lien avec votre question, puisqu'on n'a pas raisonné effectivement en termes de minimum à atteindre. Mais en revanche, on sait que ça ne marchera que si l'ensemble des acteurs en sont convaincus. C'est-à-dire que ça suppose que les bailleurs, que les élus soient convaincus de cette nécessité-là. Donc il y avait vraiment une volonté de toucher le tissu social le plus large possible, parce que c'est bien cette prise de conscience qui peut faire en sorte que finalement la personne, quel que soit l'accident ou le type de handicap auquel elle se heurte, quel que soit le territoire sur lequel elle vit, parce qu'il y a aussi des questions de territoire, ça suppose que l'ensemble des acteurs en soient convaincus. Et donc c'est la raison pour laquelle l'étude se voulait le plus transversale possible pour pouvoir être appliquée finalement, quelles que soient les situations et quels que soient les territoires.
Et je Adrien.
Pardon, Blandine. Je rejoins moi à ce que vous disiez, Blandine, à savoir, est-ce que ce n'est pas peut-être ambitieux d'avoir voulu regrouper tous les types de handicaps, parce que l'accessibilité d'un handicap moteur est très différente d'un handicap mental, par exemple, ou psychique, surtout si celui-ci est de naissance, vis-à-vis d'un handicap moteur qui peut arriver en milieu de vie, si j'ose dire. Certains nécessitent une accessibilité physique, d'autres un accompagnement humain, d'autres un accompagnement technique. Comment vous avez pu procéder pour aborder aussi globalement un tel projet ?
Oui, mais je serais tenté de dire, bien sûr, vous avez raison, il y a des différences évidemment très importantes, et vous avez raison également, c'était très ambitieux, ça c'est sûr, mais fondamentalement, les besoins, il y a des besoins universels, c'est-à-dire pouvoir vivre dans un endroit accessible, pouvoir bénéficier d'un accompagnement soit 24 heures sur 24, soit moindre selon le type de problème, pouvoir avoir accès, vous parliez de l'accès à la santé, enfin aux services de santé, pour avoir accès à une vie sociale. Enfin, sur tous ces éléments-là, même si c'est très ambitieux, c'est quelque chose qui devrait être vrai pour tout le monde, et non pas en fonction d'un type de handicap particulier. Donc voilà, enfin, fondamentalement, quand on parle d'inclusion, c'est que tout le monde devrait pouvoir bénéficier finalement de
Oui, je commence à comprendre. Vous visez l'excellence de façon à ce que si on ne peut pas l'atteindre, au moins on atteigne un très bon niveau, un niveau maximum dans ce qu'il est possible de faire avec les volontés qui sont celles des élus, des locaux, etc. Les moyens qui sont les leurs. Voilà, viser un niveau maximum tout en, voilà, en poursuivant l'excellence.
Tout à fait.
Et puis cette excellence, elle nous concerne tous. Vous le disiez à l'instant, Dominique, c'est vrai que tout ce qui concerne en général le domaine de la recherche sur le handicap, eh ben ça va avoir un impact sur nos vies à nous de valides entre guillemets, c'est-à-dire de toute façon ça concerne, on va avoir les mêmes problématiques pour les personnes âgées, pour des personnes voilà qui au cours de leur vie peuvent avoir des besoins spécifiques. On va se retrouver dans un instant dans Recherche et Partage pour continuer cette discussion avec Dominique et Adrien après un petit peu de musique.
Jusqu'à midi, Recherche et Partage sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour dans Recherche et Partage en compagnie de Dominique Argout, directeur de recherche à l'Université de Créteil, et d'Adrien Jousserando, ingénieur, pour faire le point sur des solutions inclusives dans le domaine de l'habitat pour les personnes handicapées. On en discutait, on abordait déjà cette petite subtilité qu'il y a entre l'habitat inclusif et un habitat dans une société inclusive. Et vous nous disiez, Dominique, que justement, on était plus dans le cadre de la recherche sur cette spécificité-là d'une société plus inclusive. Est-ce que c'est ça, finalement, le fond du problème, la grosse problématique à laquelle il faut répondre, non pas avec un rapport ou un projet de recherche, mais avec une conception différente de la société, en changeant les paradigmes, mais aussi bien dans l'éducation, dans la formation. Donc un problème beaucoup plus large que finalement de l'habitat inclusif, du coup, pour les personnes handicapées.
Vous avez exactement résumé la problématique, ce qui me semble être la conséquence logique du type de travail qui a été effectué, puisque si on raisonne uniquement en termes d'habitat inclusif, on va se limiter dans son mode d'action, alors que l'enjeu, c'est pas qu'agir sur le type d'habitat, sinon on va effectivement prendre le risque de se focaliser sur des aspects purement techniques, ce qui sont importants évidemment, hein, puisque la technique, la domotique, la technologie peut permettre d'améliorer les choses, mais c'est une vision très 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 limitée. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette dimension ambitieuse qui a été soulevée tout à l'heure et qui est fondamentale. C'est-à-dire que l'habitat, s'il n'est pas dans une société inclusive, ça restera très limité. Et quand on dit société inclusive, alors là, évidemment, on soulève quelque chose qui ne se changera pas d'un claquement de doigts, puisque c'est beaucoup de gens qui sont à convaincre, hein, et en sachant que certains sont beaucoup plus prêts que d'autres à être convaincus de la nécessité de faire des choses pour promouvoir cette société inclusive, mais c'est agir effectivement dans beaucoup de domaines, hein, pour réellement le permettre ce glissement-là.
Adrien.
Ouais, je crois que l'objet n'est pas peut-être même pas la contrainte. Je crois que le premier devoir, c'est de lever la peur que représente l'handicapé avec un grand H, si j'ose dire, la peur de la personne handicapée. Il y a des handicaps qui font plus peur que d'autres. Le handicap moteur par rapport au handicap psychique, par rapport à d'autres handicaps, l'un qui est le mieux intégré aujourd'hui dans notre société, c'est peut-être la cécité, parce que une personne aveugle, c'est une personne qui est intégré dans la société depuis relativement longtemps. Les handicaps mentaux, eux, par contre, sont beaucoup plus récents. Ils sont plus visibles depuis quelques années, donc pas encore bien intégrés. Mais donc, ce sont les peurs de nos concitoyens qu'il faut d'abord lever. C'est la première chose pour empêcher l'exclusion. Parce que le handicap, finalement, peut être considéré comme une défiance par rapport à des personnes d'autres communautés, comme on voit des problèmes de genre de couleurs, des gens d'autres sociétés. Voilà, tout ce qu'on ne connaît pas nous fait peur. Et cette peur est aussi infondée que tout ce qui est lié au racisme ou autre. Il n'y a pas de fondement. Il suffit de s'ouvrir à l'autre, de le découvrir. Là, la peur sera levée et on pourra passer au côté inclusif de notre société. Il faut juste que les gens ouvrent les yeux et ouvrent les bras.
Alors, pour rebondir sur ce que dit Adrien, un des objectifs du projet sur lequel vous avez travaillé, Dominique, c'est justement de faire connaître ça. Vous allez présenter un rapport aux maires de France prochainement, en fin d'année. Est-ce que, justement, ça rejoint pas ce que vient de nous dire Adrien à l'instant, c'est-à-dire que l'idée avant toute chose, c'est peut-être juste de communiquer, d'expliquer, d'inviter ces personnes, les maires, les bailleurs, les autres, à réfléchir, mais c'est là-dessus qu'on joue, c'est leur, avant même de leur expliquer les choses, c'est leur dire, bah voilà, regardez, ils sont là, il y a des gens comme ça, et il faut être inclusif avec tous.
C'est de montrer effectivement que c'est un enjeu de société, tout à fait de regard. C'est-à-dire, l'étape numéro un, effectivement, c'est la prise de conscience, c'est le changement de regard. Et ça, on sait que c'est compliqué. Et avant d'aborder d'autres aspects, de découvrir qu'effectivement, il y a tout un champ des possibles qui est à penser. Parce qu'aujourd'hui, certes, on a pu repérer comme ça, il y a des initiatives qui émergent, hein, mais entre, on va dire, une réponse qui serait très binaire, c'est-à-dire d'un côté, un domicile personnel adapté et de l'autre une institution collective également adaptée. Mais dans l'entre-deux, on peut aussi imaginer des choses qui vont permettre d'apporter une réponse qui répond à ce souhait de vivre dans une société inclusive, d'avoir un habitat adapté à une société inclusive. Et c'est là où il y a tout un possible qui reste à imaginer et à inventer.
D'ailleurs, Adrien parlait tout à l'heure d'accessibilité, et d'ailleurs vous disiez, entre l'institution et l'habitat qui peut être effectivement parfaitement adapté, il y a tout ce qui est en dehors, c'est-à-dire que l'habitat dans une société inclusive, c'est l'environnement, c'est les commerces, c'est la mixité, qu'elle soit sociale ou autre, et c'est donc tout cet environnement dans lequel une personne handicapée, mais comme les autres, voudrait vivre à égalité d'exercice de son autonomie et de ses libertés. Dominique.
Alors, c'est l'environnement, oui, tout à fait d'accord. J'ai beaucoup insisté là-dessus parce que souvent c'est l'aspect qu'on ne regarde pas et il est essentiel. Mais ce que je voudrais pointer également, et ce que la recherche a pointé, c'est qu'il y a aussi des formes, on va dire, intermédiaires d'habitat. Je pense par exemple à des systèmes de colocation, à des systèmes de foyers éclatés.
Les habitats participatifs.
Les habitats participatifs, c'est-à-dire des choses qui ne sont ni du domicile ordinaire classique, ou vivre chez ses parents, qui est aussi une autre forme qu'on retrouve souvent, ni de l'institution. Donc, vous voyez, il y a des formes aussi un petit peu intermédiaires mixtes qui peuvent permettre, si elles sont pensées effectivement avec l'environnement et avec toutes les conditions qu'on a un petit peu essayé de lister, pouvoir accéder effectivement à une vie sociale, pouvoir accéder à son environnement, aux services de santé, aux services de loisirs, à un accompagnement qui soit également adapté, ça peut être aussi une voie qui peut être intéressante pour des gens pour lesquels le domicile, on va dire isolé, seul, n'est pas forcément une réponse satisfaisante, et l'institution également, pour certaines personnes, ne va pas être une solution satisfaisante. Donc il y a aussi tout un entre-deux qui peut être à imaginer.
Et alors justement sur cet entre-deux, est-ce qu'on peut dire que du coup la problématique c'est moins le financement? On a tendance à penser, quand on parle de ça, d'un premier degré, de dire c'est souvent des questions de financement. Ça coûte trop cher. On va pas changer la donne parce que c'est pas encore assez intéressant économiquement. En fait, à vous entendre tous les deux, on se rend compte que, et de l'avis d'Adrien et de ce que vous nous en dites, ça a pas l'air d'être ça la problématique.
Je crois que la première problématique n'est pas vraiment une problématique de financement. La problématique première, c'est la problématique du regard de la personne valide, celle à qui il n'est arrivé aucun pépin, ni à la naissance, ni ensuite. La personne qui n'a pas eu d'accident, la personne qui n'a pas eu d'enfant handicapé, la personne qui n'est pas tombée malade, qui n'a pas eu de cancer, la personne lambda à qui il n'est pas encore arrivé un pépin, si j'ose dire. Parce que il faut, je ressemble dans le nombrilisme, tant pis, je parle de mon exemple. Avant mes 30 ans, avant mon accident, honnêtement, je n'allais pas spécialement aller vers une personne en fauteuil roulant ou avec une personne qui me semblait un peu étrange, je savais pas trop ce qu'elle avait. Bon, elle doit avoir un problème, je sais pas, elle parle pas normalement, elle parle pas comme les autres, elle se tient pas droite, parfois elle a un filet de bave au coin de la bouche, oh, ça fait un peu peur, je sais pas ce que c'est. Et puis, parfois dans le bus, je rencontre quelqu'un, mais finalement, j'apprends qu'elle peut communiquer avec la langue des signes. Bon, j'ai pas spécialement envie de m'y intéresser, c'est pas vraiment mon monde, ça ne m'intéresse pas. Bon, je pense pas être plus méchant qu'un autre, ni plus bête qu'un autre. J'étais comme les autres, et maintenant j'ai basculé dans ce monde-là. Honnêtement, j'ai du mal à en vouloir aux valides de ne pas s'intéresser à moi. Mais il n'y a pas de méchanceté, mais il y a un désintérêt. Il n'y a pas vraiment une franche volonté de vouloir aller vers nous, et je ne peux pas leur en vouloir parce que j'étais comme eux. Comment peut-on faire pour ouvrir le monde des valides au monde des handicapés? C'est pas vraiment un problème de financement, c'est vraiment un problème de mentalité.
Dominique, là-dessus ?
Oui, justement, dans ces nouvelles formes d'habitat qu'on a repérées, il y a quand même cette idée que si on veut qu'il y ait cette prise de conscience et qu'il y ait cette inclusion plus grande, on va dire cette mixité, enfin je ne sais pas comment l'exprimer, c'est aussi avec des habitats qui ne sont pas des habitats ségrégatifs. Si je cite quelques exemples qui ressortent quand même de ces nouvelles formes d'habitat, il y a vraiment une grosse volonté de ceux qui ont essayé d'inventer d'autres modèles, de promouvoir la mixité. Mixité au sens, par exemple, dans des immeubles, contrairement aux foyers classiques, hein, qui n'accueillent que des personnes en situation de handicap, éventuellement même avec un certain type de handicap, on voit naître des formules où l'immeuble aura des composantes à l'intérieur qui vont regrouper des gens qui sont en situation de handicap et des gens qui n'en ont pas. Et de ce fait, ça contribuera aussi à éviter des regards, parce qu'on se connaîtra mieux. Normalement, si on se croise tous les jours, si on vit dans un ensemble, dans un même ensemble, on peut supposer que les choses vont évoluer de ce côté-là. Voilà. Je crois qu'il y a aussi le type d'habitat même, s'il est ouvert sur l'extérieur, s'il est partagé, s'il est beaucoup plus mixte, ça peut aussi contribuer à favoriser des échanges et donc éviter cette peur de l'autre qui est effectivement génératrice soit de stigmatisation, soit d'incompréhension, de malentendu.
Et d'une inégalité, en tout cas aujourd'hui, face à l'habitat et face au reste de la société pour les personnes handicapées, entre autres. Un mot, je le disais tout à l'heure, vous allez présenter un rapport avec un guide des bonnes pratiques qui vont permettre d'aider des acteurs, que soient des bailleurs sociaux, des institutionnels et autres, à pouvoir penser cette société inclusive. Les résultats de la recherche seront en ligne prochainement, pas prochainement. Est-ce que là-dessus vous avez un planning?
Oui, l'échéance c'est le mois de novembre, parce qu'au mois de novembre il y a le Salon des maires en France, à Paris, mais donc voilà l'échéance. Mais cela dit, c'est un travail, enfin vous l'avez bien compris je pense à travers mon propos, c'est un travail de longue haleine. Dès qu'on travaille sur les questions d'environnement, les questions de regard, les questions de la manière dont on travaille avec la société pour que celle-ci perçoive autrement la question du handicap et de l'habitat, puisque c'était quand même la porte d'entrée de cette recherche. C'est pas de l'action comme ça qui va se trouver des solutions en un mois ou en deux mois. C'est un travail sur le long terme.
Le long terme, qui est toujours un peu trop long pour les personnes handicapées, mais voilà, il y a des choses qui avancent grâce à la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap. En tout cas, ce beau projet a vu le jour. Nul doute que ce guide des bonnes pratiques et que les résultats de cette recherche seront partagés et permettront, je n'en doute pas, de convaincre, j'espère, les maires et puis d'autres, puisque les résultats seront en tout cas accessibles pour le coup à tous. Donc, on vous invite à aller prochainement sur le site de la FIRA pour voir cette liste des questions à se poser pour permettre une société plus inclusive. Dominique Argout, je vous libère. Je sais que vous avez un train à prendre. Il ne faudrait pas le louper. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de ce projet. À bientôt, j'espère, sur l'antenne de Vivre FM. Et puis, nous, après une toute petite pause, on se retrouve pour parler un peu de la même chose, finalement, toujours avec Adrien Jousserando. Je tape un peu de musique.
Jusqu'à midi, recherche et partage sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Allez hop, de retour dans Recherche et Partage, une émission réalisée en partenariat avec la FIRA, on l'a dit mais on le répète. Adrien Jousserando est ingénieur en travaux publics, il est aussi tétraplégique depuis un accident, il nous le racontait il y a quelques années. Il est un des co-auteurs, on peut le dire je crois, du rapport sur l'accès aux soins des personnes handicapées remis par Pascal Jacob à la demande du ministère de la Santé et publié en 2013. Un parcours de soins et de santé sans rupture d'accompagnement en France pour les personnes handicapées, c'est de l'ordre du possible. Ça rejoint complètement ce dont on parlait avant avec Dominique Argout, c'est-à-dire le fait de vouloir vivre dans une société un petit peu plus inclusive qui permette aux personnes handicapées notamment de vivre un peu plus à égalité, on va dire, de leurs concitoyens.
Oui, alors pour avoir bossé assez longtemps sur ce projet, je crois, nous sommes convaincus, nous tous qui avons bossé sur ce projet, et il y a des centaines de personnes qui ont participé à l'élaboration de ce projet, nous sommes convaincus que c'est du domaine du possible, si ce n'est pas vraiment pour demain, on espère que ce sera pour après-demain, du moins. Ça rejoint effectivement ce que disait Dominique, ça rejoint le problème de la société inclusive. Là, c'était vraiment axé sur la difficulté d'accès aux soins, parce que l'accès aux soins, c'est tout simplement un droit citoyen que les personnes handicapées ont du mal à exercer aujourd'hui. Aujourd'hui, énormément de personnes, faute d'un accès possible, abandonnent leurs soins, abandonnent leurs actes de prévention pourtant nécessaires renoncent à l'accès aux soins et trop souvent terminent aux urgences ou se font hospitaliser lorsque c'est trop tard, lorsque le mal a dégénéré, tout simplement parce que le soin n'est pas accessible.
Alors quand vous parlez d'un accès qui n'est pas possible pour les personnes, on est à quel niveau ? C'est parce que les personnes handicapées elles-mêmes n'ont pas accès à l'information, ne savent pas forcément où, quand, comment, à qui s'adresser ? C'est parce que c'est trop complexe ? C'est parce que cet accompagnement n'existe pas ? Quel est le frein principal finalement à ce défaut de...
Les freins sont multiples. Les freins sont multiples. Les personnes, certes, n'ont pas accès à l'information. Donc, nous avons tâché d'imaginer des solutions pour créer des réseaux d'information. Lorsque des professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, sont susceptibles d'accueillir des personnes handicapées, qu'elles le fassent savoir, qu'elles puissent être repérées par des réseaux, que les réseaux puissent diffuser l'information et le diffuser auprès des personnes intéressées en disant « Voilà, pas trop loin de chez vous, il y a un médecin libéral, une infirmière ou autre, que sais-je, un kinésithérapeute qui est susceptible d'accueillir des personnes présentant votre handicap. Les locaux sont adaptés. Cette personne est en mesure de vous accepter. Dans cet hôpital, il y a une personne qui parle la langue des signes, par exemple, qui est susceptible de communiquer avec vous. Donc oui, il y a un défaut d'information, mais il y a aussi un défaut tout simplement des structures déjà existantes, puisque toutes les structures ne peuvent pas accueillir des personnes handicapées. Bon, alors sans parler de structures 100% accessibles, oui, il y a aussi ce problème de certains handicaps qui pourraient être facilement pris en charge, mais qui ne le sont pas aujourd'hui.
C'est-à-dire, par exemple ?
Eh bien, par exemple, Il est, voilà, comme je le disais, trop difficile pour une personne présentant un handicap mental de se présenter dans un hôpital et d'être prise en charge de façon simple, tout simplement parce que dans les hôpitaux, aux urgences par exemple, systématiquement les accompagnants ne sont pas acceptés. Une maman qui va accompagner son enfant qui présente un handicap mental va être refusée à l'entrée des urgences. On va lui dire non madame, c'est bon, on s'occupe de votre fils, mais l'enfant d'une part va être paniqué parce que sa mère va être exclue de son admission aux urgences, et qui plus est, il va être totalement incapable de communiquer avec les soignants, qui auront qu'une envie, c'est de bien faire leur boulot, bien sûr, mais ils ne sont pas sensibilisés à son handicap, ils ne sont pas en mesure de communiquer avec lui, et en excluant sa maman de son inclusion aux urgences, malheureusement, le contact va être impossible avec cet enfant. Et le plus souvent, d'ailleurs, il va ressortir sans avoir bénéficié de soins, faute d'avoir pu établir un contact constructif.
Loi sur le handicap en 2005, on est en 2014, on a l'impression à vous entendre que finalement il manque pas grand-chose. Hein. Vous parlez de formation, de sensibilisation, c'est quand même, on se dit, de l'ordre du possible dans notre société. Qu'est-ce qui fait que finalement ça avance aussi peu, aussi lentement ? Se dire aujourd'hui que des personnes, des soignants, des personnes qui travaillent en hôpital, eh ben, finalement sont un peu perdues par rapport à ces problématiques-là, on se dit il y a eu un manque dans la formation. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être très tôt, même bien avant les études de santé ou de médecine.
Alors, avez-vous dit un manque dans l'information ou un manque dans la formation ?
Alors, dans la formation...
Eh bien oui, mais... je crois que là, on touche le premier problème. C'est tout simplement la formation, la sensibilisation au handicap. On en revient à ce qu'on disait avec Dominique tout à l'heure. C'est que les professionnels de santé, les médicaux, les paramédicaux, même les décideurs, le législateur ne connaissent pas le handicap. Et les professionnels de santé, s'ils étaient un petit peu motivés, si dans leurs études, ils avaient un module sur le handicap, s'ils connaissaient des personnes handicapées, s'ils avaient la chance de pouvoir échanger avec elles au cours de leur formation, il serait beaucoup plus simple, je pense, pour elles de s'ouvrir à l'acceptation des handicapés.
Ouais, mais du coup, par formation, moi j'entendais même bien plus en amont, c'est-à-dire que c'est pas seulement le personnel hospitalier, c'est peut-être dès la petite enfance, dès l'école.
Absolument. Alors là, on arrive dans la société inclusive, on arrive sur le volet de lever les peurs, tout simplement. Là, on arrive je vous parlais du personnel médical puisqu'on parlait d'accès aux soins, mais effectivement, dans le fait de s'ouvrir à la différence, tout simplement, c'est admettre des personnes handicapées, oui, à l'école, effectivement.
Alors aujourd'hui, alors il y a une synthèse qui est disponible du rapport que vous avez remis. Qui est
sur le site du ministère de la Santé, voilà, oui.
Qui est très bien faite, très pratique. On voit qu'il y a un certain nombre de points qui sont listés. Vous parliez tout à l'heure des accompagnants, on fait référence aux aidants. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important là-dedans qu'est-ce qu'on peut retirer de cette quinzaine de points? On parle de l'accueil aux urgences, de la fin de vie, des soins courants en ville. Ça fait à la fois énormément de choses. Par quoi on commence? Est-ce que le ministère de la Santé, du coup, vous a répondu un peu en disant oui, alors on va s'atteler peut-être en priorité à telle ou telle action?
Tout est prioritaire et rien ne l'est, si j'ose dire. Les points que nous avons... Il y a plus de 200 mesures assez concrètes qu'on a pu dégager, finalement, en travaillant autant de temps avec autant de monde. On a essayé de les résumer dans justement la synthèse que vous avez pu lire. La motivation, la formation dont on parlait me paraîtrait un des premiers points. Et on va dire... Le deuxième point, à ce moment-là, je pense qu'il constituerait, ce serait quand même la prévention. La prévention, parce que le manque de prévention dans l'accès aux soins aujourd'hui coûte extrêmement cher. Parce que les personnes sont prises en charge beaucoup trop tard, dans des structures lourdes, chose qui ne serait pas arrivée si elles avaient été prises en charge en amont. Un enfant polyhandicapé qui ne peut pas avoir un détartrage régulièrement plusieurs fois par an, parce que s'il est autiste, par exemple, plutôt trisomique. Je sais qu'un enfant trisomique a besoin de plus de détartrage, par exemple dentaire, qu'un enfant qui ne l'est pas. S'il ne bénéficie pas de ce détartrage plusieurs fois par an, malheureusement, son état de santé dentaire va s'aggraver. Et déjà, donc pour lui, ça va être catastrophique, pour son entourage aussi. Et il va devoir être admis à l'hôpital pour ce problème qui se sera dégradé, chose qui ne serait pas arrivée. Et donc, on aurait perdu moins de temps, on aurait perdu moins d'argent. Son état de santé à ce petit garçon, à cette petite fille, ne se serait pas dégradé. Tout le monde y aurait gagné. Donc, la prévention... la prévention, le manque de prévention, c'est un des problèmes prioritaires que nous avons dégagés.
Alors, vous disiez tout à l'heure que, effectivement, à moins d'avoir un cancer, un ami trisomique ou un accident, on a du mal parfois à s'intéresser au handicap. Dominique Argout est chercheur, il a fait une recherche là-dessus, vous avez rendu un rapport. Est-ce que tous ces outils-là, véritablement, sont assez efficaces pour faire avancer les choses? On a l'impression qu'il y a profusion, effectivement, de recommandations, qu'on les connaît, les solutions, mais que, voilà, ça bloque toujours. Il va falloir encore, vous le disiez, un peu de temps. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas aussi peut-être utiliser d'autres outils, mettre une pression un peu différente? On l'a vu pour l'accessibilité des bâtiments publics, il y a eu beau avoir une loi, on recule, on retarde, on est encore... Qu'est-ce qui manque?
Bon, l'accessibilité, la loi de 2005 dont vous parliez tout à l'heure, je crois que c'était un petit peu comme pour Dominique, finalement. On a visé l'excellence, 100% des bâtiments accessibles au public, etc. Je pense qu'il était de toute façon illusoire d'espérer ces 100%. Bon, visons le maximum, visons l'excellence pour en avoir au moins une bonne partie, pour que ça bouge, que ça aille au moins de l'avant.
Oui, mais là, il y a eu pire. Il y a eu en plus des pas en arrière, politiquement. Il y a eu un peu des messages contre. Donc, c'est quand même se dire que les personnes, en tout cas celles qui ont peut-être les moyens d'agir, sont pas encore complètement convaincues de l'urgence, de la nécessité.
Parce que malheureusement, elles ne se sentent pas concernées, parce que c'est le problème de la personne valide qui ne se sent pas concernée par le handicap, parce que le handicap, bah, ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres, à ceux qui ont, oh, pas de bol, ont un accident, ou oh, pas de bol, ont des enfants handicapés. On ne pense jamais que ça va nous arriver à soi, mais si, et c'est pas pour autant que nous ne sommes plus humains, que nous sommes moins que les autres. Non, non. Ben, simplement, on s'est fait prendre par ce hasard de la vie. Mais voilà, le problème, vous me demandiez pourquoi ça avance si lentement, parce que les décisionnaires à l'heure actuelle sont encore des gens qui ne se sentent pas trop concernés par un phénomène qui fait peur parce que ça arrive qu'aux autres et on n'a surtout pas envie que ça nous arrive à nous ou à nos proches.
Donc finalement, le prochain projet de recherche qu'il faudrait lancer, c'est peut-être là-dessus, sur se poser la question du voilà, pourquoi ça n'avance pas et comment on fait pour que les personnes qui font les lois, les personnes qui nous représentent, soient un peu plus inclusives elles-mêmes de personnes handicapées, ce qui ferait peut-être avancer un peu la machine.
Exactement, les handicapés sont des personnes comme tout le monde, absolument sympas, regardez-moi, n'ai-je pas l'air extrêmement sympathique? Et en plus, les solutions, on a travaillé dessus, on a des solutions concrètes, allez regarder dans le rapport, les solutions sont là, elles sont à mettre en œuvre et elles ne coûteront rien, compte tenu des économies qui pourront être dégagées par d'autres mesures qui sont également préconisées dans ce rapport. Comme je le disais, ne serait-ce que la prévention, une meilleure prévention, générerait d'énormes économies pour le contribuable, l'hôpital public ou autre, et qui permettrait de financer d'autres mesures. Les solutions sont là, il ne manque plus que la volonté et l'ouverture aux autres.
Bon, mais en tout cas, Adrien Jusserando est disponible. Les prochaines personnes qui veulent faire un appel à projet auprès de la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap, peuvent faire appel à vous. Je n'en doute pas, ça fera avancer les choses. Merci Adrien de nous avoir accompagnés dans cette émission.
Merci à vous.
Vous retrouverez cette émission en podcast bientôt sur le site de Vivre FM, www.vivrefm.com. Et puis pour plus de renseignements sur les projets soutenus par la FIRA, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.fira.org et à regarder les résultats du projet de recherche dont nous avons parlé avec Dominique Argout. Et puis la synthèse, je le rappelle, la synthèse du rapport sur l'accès aux soins et à la santé des personnes handicapées, ça c'est disponible sur le site du ministère de la Santé, c'est très facilement trouvable. N'hésitez pas, bon week-end à tous, à l'écoute de Vivre FM.